De la diversité des prélèvements et du rôle de la progressivité fiscale. On notera également que la montée en puissance de l'État fiscal et social s'est faite en réalité en ayant recours à une grande diversité de prélèvements. Pour obtenir des recettes égales à 45% du revenu national, ce qui correspond approximativement à la moyenne des pays ouest européens dans les années 2000-2020, il suffirait, par définition, d'avoir recours à un impôt unique prélevé sur tous les revenus à un même taux proportionnel de 45%. Ou bien à un impôt unique mais progressif sur le revenu, avec des taux inférieurs à 45% dans le bas de la distribution et supérieurs à 45% dans le haut, de façon que le taux moyen soit de 45%. En pratique, ces recettes sont obtenues non pas avec un impôt unique, mais avec une multitude de taxes, impôts et cotisations qui forment un ensemble complexe, incohérent et souvent peu lisible pour les citoyens. Ceci peut menacer l'acceptabilité de l'ensemble, surtout dans un contexte où la concurrence fiscale exacerbée tend à conduire à l'abaissement des prélèvements sur les groupes sociaux les plus mobiles et les plus favorisés et à un alourdissement graduel pour les autres. Pour autant, l'impôt unique n'est pas la solution, et la question de l'impôt juste et idéal mérite d'être examinée de façon détaillée et dans toute sa complexité. Il existe en particulier de bonnes raisons de trouver un équilibre entre l'imposition des flux de revenus et celle des stocks de patrimoine, à la fois pour des raisons de justice et d'efficacité sur lesquelles nous reviendrons. À ce stade, je veux surtout souligner la complémentarité historique entre le développement de l'impôt progressif à grande échelle et la montée en puissance de l'État social au cours du XXe siècle. Les taux de 70-80% appliqués aux plus hauts revenus et successions entre les années 1920-1930 et les années 1960-1970 ne concernaient certes qu'une petite fraction de la population, généralement autour de 1-2%, parfois à peine 0,5%. Tout indique cependant qu'ils jouèrent un rôle essentiel pour réduire durablement la concentration extrême de la propriété et du pouvoir économique qui caractérisait l'Europe de la Belle Époque. À eux seuls, ces taux d'imposition n'auraient jamais pu suffire à rapporter les recettes nécessaires pour financer l'État social, et il était crucial de développer dans le même temps d'autres prélèvements pesant sur l'ensemble des salaires et des revenus. C'est la conjonction de ces deux visions complémentaires du rôle de l'impôt, la réduction des inégalités, le financement des dépenses, qui a permis la transformation des sociétés de propriétaires en sociétés social-démocrates. On remarquera en particulier qu'entre les années 1920-1930 et les années 1960-1970, il existait en Europe comme aux États-Unis un écart considérable entre le taux moyen d'imposition, qui était d'environ 20-40% du revenu national en progression, et les taux appliqués aux plus hauts revenus et patrimoines, qui atteignaient souvent 70-80%, voire davantage. Le système était clairement progressif, et chacun, dans le bas et le milieu de l'échelle sociale, pouvait comprendre que les efforts les plus importants étaient demandés au sommet de la hiérarchie, ce qui favorisait à la fois la réduction des inégalités et le maintien du consentement à l'impôt. Cette double nature de l'État fiscal au XXe siècle, progressivité de grande ampleur, financement de l'État social, permet également de mieux comprendre pourquoi la baisse à long terme de la concentration de la propriété n'a pas empêché le processus d'investissement et d'accumulation de suivre son cours. L'accumulation de capital productif et éducatif s'est poursuivi depuis la Seconde Guerre mondiale à des rythmes supérieurs à ceux observés avant 1914, en partie parce que des canaux publics d'accumulation ont pris le relais, et en partie parce que les groupes sociaux plus modestes et peu touchés par les impôts progressifs ont compensé la moindre accumulation des plus riches. La situation en vigueur dans les années 1990-2020 est rigoureusement inverse. Le taux moyen d'imposition appliqué aux classes moyennes et populaires est égal ou supérieur au taux appliqué au sommet, ce qui tend naturellement à avoir les effets inverses. Augmentation tendancielle des inégalités, remise en cause du consentement fiscal, faible accumulation d'ensemble. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. les sociétés propriétaristes, l'impôt progressif et la Première Guerre mondiale. Venons-en maintenant à une question particulièrement complexe et délicate. La montée en puissance extrêmement rapide de l'impôt progressif, avec des taux de 70-80% sur les plus hauts revenus et successions dès les années 1920-1930, aurait-elle pu avoir lieu sans la Première Guerre mondiale? Plus généralement, les sociétés de propriétaires, qui paraissaient si solides et inébranlables en 1914, se seraient-elles transformées avec la même célérité sans la violence destructrice inouïe qui se déchaîne entre 1914 et 1918? Peut-on imaginer une trajectoire historique où les sociétés de propriétaires, en l'absence du premier conflit mondial, auraient maintenu leur emprise sur l'Europe et les États-Unis, voire sur le monde, à travers la domination coloniale? Et jusque quand? Il va de soi qu'il est impossible de répondre de façon certaine à ces questions d'histoire contrefactuelle. L'irruption du premier conflit mondial a tellement perturbé l'ensemble des dynamiques sociales, économiques et politiques qu'il est maintenant très difficile d'imaginer une trajectoire historique en son absence. Ces questionnements ont toutefois des conséquences sur la façon dont on peut envisager la question de la redistribution et des inégalités au XXIe siècle, et il est possible d'apporter quelques éléments de réponse, et surtout ne pas se laisser enfermer dans des lectures déterministes. Du point de vue de l'analyse présentée dans cette enquête, où j'insiste sur le poids des facteurs politico-idéologiques dans la dynamique des régimes inégalitaires, ainsi que sur l'interaction entre les évolutions intellectuelles de long terme et les logiques événementielles de court terme, la Première Guerre mondiale constitue un événement majeur, susceptible d'ouvrir sur une multiplicité de trajectoires possibles. Il suffit de regarder la hausse spectaculaire du taux supérieur de l'impôt sur le revenu, ou l'effondrement des propriétés privées ou des actifs étrangers, pour voir l'impact profond et multiforme de la guerre sur le régime inégalitaire propriétariste et colonialiste. La réduction des inégalités et la sortie des sociétés de propriétaires au XXe siècle ne sont pas des processus paisibles. Ils sont le produit de crises et de leur rencontre avec des idées nouvelles et avec les luttes sociales et politiques, comme la plupart des changements historiques d'ampleur. Pour autant, peut-on vraiment affirmer que des évolutions similaires ne se seraient pas produites en tout état de cause, sans doute à la faveur d'autres crises, y compris en l'absence de la Première Guerre mondiale? Des recherches récentes ont insisté sur l'importance de l'expérience de guerre en tant que telle, et en particulier sur le rôle de la conscription militaire de masse dans le processus de légitimation de l'impôt progressif et la mise en place de taux d'imposition quasiment confiscatoires sur les plus hauts revenus et patrimoines à l'issue du premier conflit mondial. Après le sang versé par les classes populaires, il était impossible de ne pas demander un effort inédit aux classes privilégiées afin d'apurer les dettes issues de la guerre, et aussi pour permettre la reconstruction de pays durement éprouvés et la mise en place d'une plus grande justice. Certains travaux vont jusqu'à conclure que les impôts fortement progressifs n'auraient pas pu voir le jour sans la Première Guerre mondiale, et que, en l'absence d'une expérience similaire, et peu probable à ce stade, de conscription militaire de masse au XXIe siècle, une telle progressivité fiscale ne pourra revoir le jour à l'avenir. Aussi intéressantes soient-elles, ces hypothèses me semblent un peu trop rigides et déterministes. Plutôt que de prétendre pouvoir identifier l'impact causal de tel ou tel événement, il me semble plus prometteur de voir dans ces multiples moments de crise des points de bifurcation endogène reflétant des causes plus profondes et ouvrant sur un grand nombre de trajectoires et d'évolutions possibles en fonction de la façon dont les acteurs se mobilisent et convoquent des expériences partagées et des idées nouvelles pour redéfinir le cours des choses. En l'occurrence, la Première Guerre mondiale n'est pas un événement exogène que la planète Mars aurait catapulté sur Terre. Il n'est pas interdit de penser qu'elle a été causée, au moins en partie, par les très fortes inégalités et tensions sociales qui minaient les sociétés européennes d'avant 1914. Les enjeux économiques étaient également très forts. Nous avons vu par exemple que les placements étrangers rapportaient à la France et au Royaume-Uni entre 5 et 10% de revenus nationaux supplémentaires à la veille de la guerre, apport considérable et en progression accélérée au cours de la période 1880-1914, et qui ne pouvait qu'aiguiser les convoitises. De façon générale, les placements financiers franco-britanniques s'accroissaient de façon tellement rapide entre 1880 et 1914 qu'il est difficile d'imaginer comment cette trajectoire aurait pu se poursuivre à ce rythme sans susciter d'énormes tensions politiques, aussi bien au sein des pays possédés que des rivaux européens. De tels montants avaient en outre des conséquences non seulement pour les propriétaires français et britanniques, mais également pour la capacité des différents pays à mener des politiques fiscales et financières permettant de garantir la paix sociale. Au-delà des intérêts économiques en jeu, qui étaient tout sauf symboliques, il faut ajouter que le développement des États-nations européens s'est également accompagné d'un raidissement des identités nationales et des antagonismes nationaux. Les rivalités coloniales elles-mêmes alimentaient également des conflits identitaires, par exemple entre ouvriers français et italiens dans le sud de la France, qui contribuèrent à renforcer les coupures entre nationaux et étrangers, à durcir les identités nationales, linguistiques et culturelles, et finalement à rendre la guerre possible. Par exemple, des émeutes mortelles anti-italiens eurent lieu à Marseille, en 1881, quelques années avant les massacres d'Aigues-Mortes en 1893, après que l'on eut suspecté des ouvriers italiens de siffler le défilé des troupes françaises qui venaient de prendre le contrôle de la Tunisie au détriment de l'Italie. Par ailleurs, le rôle central joué par le conflit de 1914-1918 dans l'effondrement des sociétés de propriétaires ne doit pas conduire à négliger l'importance des autres événements majeurs de la période, à commencer par la crise des années 1930 et la révolution bolchévique. Ces différentes crises auraient pu se dérouler suivant d'autres scénarios et s'agencer différemment, et l'analyse des différents pays et trajectoires montre qu'il est difficile d'isoler l'effet de la guerre par rapport à celui des autres événements. Dans certains cas, le conflit de 1914-1918 eut un rôle décisif, comme avant le vote de l'impôt sur le revenu dans le cadre de la loi du 15 juillet 1914 en France. Mais les choses furent généralement plus complexes et conduisent à relativiser le rôle de la guerre et de la conscription de masse en tant que telle. On notera toutefois qu'un alourdissement important de la progressivité de l'impôt successoral fut adopté en 1910, dans le contexte de la recherche de financement pour la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, ce qui suggère que la France aurait sans doute fini par adopter l'impôt sur le revenu avec ou sans la guerre. Dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, la progression des taux de l'impôt successoral et de l'impôt sur le revenu était déjà bien lancée à la suite de la crise politique de 1909-1911, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La chute de la Chambre des Lords ne doit rien à la guerre et à la conscription, pas plus que la dissolution des monastères en 1530, la Révolution française de 1789, la réforme agraire lancée en Irlande autour de 1890-1900, ou la fin des droits de vote proportionnels aux fortunes en Suède en 1911. Les aspirations à la justice et à l'égalité prennent de multiples formes dans l'histoire et n'ont pas besoin de l'expérience des tranchées pour prospérer. On peut faire la même remarque pour le Japon que pour le Royaume-Uni. Le développement de l'impôt progressif était déjà bien avancé avant 1914, particulièrement pour l'imposition des hauts revenus. Cette évolution obéissait pour partie à sa logique propre, issue des spécificités de l'histoire japonaise, au sein de laquelle de nombreux éléments pèsent plus que le conflit de 1914-1918. Du rôle des luttes sociales et idéologiques dans la chute du propriétarisme. Pour ce qui concerne les États-Unis, nous avons vu que la demande sociale et la mobilisation populaire en faveur de la justice fiscale s'exprimaient de plus en plus fortement depuis les années 1880-1890. Le long processus menant à l'adoption du 16e amendement en 1913 doit peu au conflit de 1914-1918, qui ne semble jouer aucun rôle dans les discours de Fisher en 1919 ou de Roosevelt en 1932 sur le renforcement de l'impôt progressif et la nécessité de réduire la concentration de la propriété et l'emprise des grandes fortunes. De façon générale, il ne faut pas exagérer l'ampleur du choc politique produit aux États-Unis par la Première Guerre mondiale, qui est avant tout un traumatisme européen. Pour la majeure partie de la population, la Grande Dépression de 1929-1933 constitue outre-Atlantique un choc autrement plus marquant. Les récits que fait Steinbeck dans Les raisins de la colère, de la souffrance des ouvriers agricoles et des métayers expropriés de l'Oklahoma et de la violence des relations de travail dans les camps et les exploitations de Californie, nous en disent davantage sur le contexte menant au New Deal et à la progressivité fiscale rooseveltienne que les récits de tranchées du nord de la France. On peut raisonnablement penser que la crise de 1929, ou une crise financière de même type, aurait suffi pour entraîner un tournant comparable au New Deal, ou des développements similaires, y compris en l'absence du conflit de 1914-1918. De même, si la guerre de 1939-1945 joua sans nul doute un rôle important pour justifier de nouvelles augmentations d'impôts sur les plus riches, en particulier dans le cadre du Victory Tax Act de 1942, qui porta le taux supérieur à 91%, le fait est que cette évolution avait commencé bien plus tôt au cours du mandat de Roosevelt dans le contexte de la crise des années 1930. Il faut également souligner l'impact majeur de la révolution bolchevique de 1917 qui conduisit les élites capitalistes à revoir radicalement leur position sur les questions de redistribution des richesses et de justice fiscale, particulièrement en Europe. Dans les débats français de 1920, quand les groupes politiques qui refusaient en 1914 l'impôt sur le revenu avec un taux de 2% se mirent subitement à voter des taux de 60% sur les plus hauts revenus, un aspect qui ressort clairement est la peur de la révolution, dans un contexte où des grèves générales menacent d'embraser le pays et où la majorité des militants socialistes choisit de se rallier à l'Union soviétique et à la nouvelle internationale communiste dirigée par Moscou. Par comparaison au risque d'une expropriation généralisée, l'impôt progressif paraît soudainement moins effrayant. Il en va de même lors des grèves quasi-insurrectionnelles qui ont lieu en France en 1945-1948, particulièrement au cours de l'année 1947. Le renforcement de la progressivité fiscale et la mise en place de la sécurité sociale paraissent de moindres maux aux yeux de tous ceux qui craignent une révolution communiste. On peut certes noter que la révolution russe est elle-même issue de la Première Guerre mondiale. Pour autant, il est peu probable que le régime tsariste aurait perduré indéfiniment en son absence. La guerre joua également un rôle central dans l'extension du droit de vote en Europe. Le suffrage universel masculin fut par exemple institué en 1918 au Royaume-Uni, au Danemark et en Hollande, et en 1919 en Suède, en Italie et en Belgique. Cette même année, 1919, le vote devint secret en Allemagne, où tous les hommes adultes avaient en principe le droit de vote depuis 1871, comme en France, mais sans isoloir, ce qui en pratique pouvait limiter son expression suivant l'ampleur de l'emprise exercée par les élites locales. Là encore, il paraît toutefois assez vraisemblable qu'une évolution similaire aurait eu lieu en l'absence de guerre, à la faveur d'autres crises et surtout d'autres mobilisations populaires et collectives. Nous avons déjà noté l'importance des luttes sociales dans le cas de la Suède. C'est le mouvement ouvrier et social-démocrate suédois, à travers une exceptionnelle mobilisation populaire entre 1890 et 1930, qui a conduit à la transformation d'un régime propriétariste exacerbé, où un seul électeur fortuné avait parfois plus de droits de vote aux élections municipales que l'ensemble des autres habitants d'une commune, en un régime social-démocrate, caractérisé par un ambitieux État social et une forte progressivité fiscale. Le premier conflit mondial, auquel la Suède ne participe pas, semble jouer un rôle tout à fait mineur dans cette évolution. On remarquera d'ailleurs que les taux des impôts progressifs suédois restent relativement modérés pendant la Première Guerre mondiale et les années 1920, autour de 20-30%. Ce n'est qu'après que les sociaux-démocrates ont solidement pris les rênes du pouvoir, dans les années 1930 et 1940, que les taux appliqués aux plus hauts revenus et successions atteignent 70-80%, niveau auquel ils se maintiendront jusqu'aux années 1980. Un autre exemple de trajectoire politique originale est fourni par l'Italie. Le régime fasciste qui se met en place en 1921-1922 n'aime guère l'impôt progressif. Les taux appliqués aux plus hauts revenus restèrent bloqués à des niveaux relativement faibles pendant tout l'entre-deux-guerres, autour de 20-30%, avant de subitement bondir à plus de 80% en 1945-1946 avec la chute du fascisme et la mise en place de la République italienne, dans un contexte où les partis communistes et socialistes jouissent d'une grande popularité. Le régime de Mussolini décide même d'abolir purement et simplement les droits de succession en 1924, à rebours complet de ce qui se passe partout ailleurs, avant de les réintroduire en 1931 à un taux hyper faible de 10%. Les taux applicables aux successions les plus élevés seront immédiatement portés autour de 40-50% après la Seconde Guerre mondiale. Cela confirme que ce sont avant tout les mobilisations politiques, ou leur absence, qui explique les évolutions de la fiscalité et des inégalités. Dans un contexte international marqué par une forte réduction des inégalités sociales, le fascisme et le nazisme furent davantage préoccupés par la lutte contre l'ennemi extérieur et par la promotion de l'ordre et de la hiérarchie que par la compression des écarts au sein de leur communauté nationale. Pour résumer, la fin des sociétés de propriétaires est avant tout la conséquence d'une transformation politico-idéologique. Les réflexions et les débats autour de la justice sociale, de l'impôt progressif et de la redistribution des revenus et de la propriété, déjà très présents au XVIIIe siècle et pendant la Révolution française, prirent une ampleur nouvelle dans la plupart des pays à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, compte tenu notamment de la très forte concentration des richesses générées par le capitalisme industriel et des progrès de l'éducation et de la diffusion des idées et de l'information. C'est la rencontre entre cette évolution intellectuelle et un ensemble de crises militaires, financières et politiques, en partie causées par les tensions inégalitaires, qui conduisit à la transformation du régime inégalitaire. Les mobilisations et les luttes sociales jouèrent un rôle central, de même que les évolutions politico-idéologiques, avec des spécificités propres à chaque histoire nationale, et dans le même temps, des expériences de plus en plus partagées et connectées au niveau mondial, ce qui peut provoquer une diffusion rapide des pratiques et des ruptures. Il en ira probablement de même à l'avenir.